Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, on revient sur la question, en fait, tu veux revenir sur ma chronique au Journal de Montréal d'hier à propos des sacs d'école et des fournitures scolaires pour les familles les plus démunies.
Oui, tout à fait. C'est l'opération sac à dos dont on parle beaucoup quand même dans les derniers temps. Je lis ici là sur les réseaux sociaux, hein, donc un organisme qui vise à équiper les jeunes pour la rentrée scolaire. Donc sac à dos et tout ce qui rentre dans ce sac à dos là. Comme tu l'expliquais, il y a beaucoup d'élèves qui vont arriver à la rentrée scolaire en déficit de matériel. On parle de crayons, règles, compas, calculatrices, etc. Donc oui, je pense que c'est un enjeu qui est important. Hein? Donc, faut arriver à l'école équipé. C'est comme la base. On peut pas s'en passer. Et d'un côté, il y a ça, mais il y a aussi de plus en plus de familles de la classe moyenne qui ont cette tendance-là. Et ça, il y a quelque chose de positif de recycler ce qu'ils utilisent déjà, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une tendance à jeter beaucoup. J'ai souvent vu des enfants, à la fin de l'année, on prend le sac puis on ce qu'il y avait dedans, ah ouais, au recyclage, ah ouais, dans la poubelle. Mais de plus en plus, OK, qu'est-ce que je peux réutiliser pour l'année prochaine? Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi là, comme mouvement.
Mais ça, c'est quand c'est fait avec une conviction, que ce soit environnementaliste, soit de recyclage, soit de vouloir ne pas avoir à gaspiller, que ce soit des ressources financières ou même juste des ressources matérielles que l'on a déjà et qui sont encore bonnes. C'est une chose quand on est obligé d'utiliser des ressources qui sont déjà maganées pour pouvoir faire face à l'année par manque de moyens. C'est là où le bât blesse.
Oui, exactement, tu as entièrement raison. Je t'appuie à 100%, puis j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller donner si le cœur leur en dit. Comme si je le disais tantôt, là, il y a aussi ce cas de figure que dans les écoles peut-être plus aisées, où est-ce que j'ai vu des enfants être vraiment insouciants avec leur matériel, donc mettre ça aux poubelles, et j'ai l'impression que collectivement, il y a peut-être aussi une espèce d'apprentissage là-dedans à faire, tu sais, de prendre soin de ces choses. Il y a vraiment une éducation à faire avec ces enfants. Dans les écoles, je pense aussi, les souliers souvent sont déchirés très rapidement. On les met d'une manière un peu loufoque, hein, en écrasant le talon un peu. Ben, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de conscientisation à faire sur on doit faire attention à nos choses. Ça coûte cher. Hein, les adolescents sont pas toujours conscients de la valeur de l'argent. Puis il y a quelque chose qui est important ici, là.
Non, c'est vrai que faudrait que peut-être ça fait partie du rôle des parents puis de tous les intervenants auprès de l'étudiant, de l'écolier, que de rappeler que le gaspillage, ben c'est sur toutes ses formes que l'on devrait le rejeter, tant d'un point de vue alimentaire que d'un point de vue des effets scolaires, des vêtements et autres.
Oui, tout à fait. Puis, évidemment, toute la question que tu poses aussi, c'est celle de la gratuité scolaire, hein? Parce que c'est en théorie notre système d'éducation est gratuit au secondaire, au primaire et au secondaire. Mais en même temps, on lit ta chronique, les parents écoutent ce que je dis en ce moment, puis on se dit, bah attends, c'est pas vrai que c'est gratuit. Il faut que quand même que je débourse certaines choses. Et la loi est assez claire sur ce que les parents doivent payer, ce que l'État doit payer. Donc, je l'explique très rapidement. Donc, l'État doit payer les manuels, les dictionnaires, les outils technologiques. C'est tout ce qui est en fait qui peut être réutilisé année après année. ça, l'État peut s'en occuper. Et quand je parle de manuel, c'est vraiment où est-ce que les notions et où est-ce qu'on n'écrit pas dans le manuel. C'est vraiment un
livre de référence, si là, un bouquin de référence.
Ouais, exactement. Par contre, les parents doivent débourser l'argent pour tout ce qui est périssable, entre guillemets. Donc, tout ce qu'on peut pas réutiliser année après année. On peut parler des cahiers d'exercice, les crayons de bois, les stylos, etc. Et ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que il y a de moins en moins de manuels. Je m'explique. De plus en plus, les cahiers d'exercice contiennent aussi les références, les explications. Donc, il y a de moins en moins de manuels qu'on réutilise année après année et de plus en plus de cahiers d'exercices qu'on utilise pendant juste un an puis l'autre année d'après, ben on peut pas le redonner au petit frère, la petite sœur. Donc ça fait en sorte que les parents ont à payer de plus en plus de choses. Et cette gratuité-là recule année après année, je pense.
Ben hier, David, après la publication de ma chronique, ben je suis allée chercher ma fille à la garderie juste après, on est parti à la papeterie acheter la liste que je trouve quand même assez impressionnante pour un enfant qui s'en va à maternelle 5 ans. Ça commence tôt les listes avec les différents besoins et je dois te dire que la facture est quand même montée à 160$. 160$
ah oui,
pour un enfant de la maternelle avec un petit panier constitué de duotang puis le coffre à crayons qui veulent qu'il soit un rigide, un qui soit de deux compartiments, des feutres, des crayons de bois, des crayons de mine. Je me dis, ça ressemblera à quoi en cinquième secondaire?
Ouais, ça vaut la question, hein? Puis si je me trompe pas, ta fille, elle rentre en maternelle.
Maternelle,
donc,
là.
Ouais, c'est ça. Donc, quand même, oui, c'est très cher. Puis, avec l'inflation, on peut s'imaginer aussi. J'ai pas encore été là, dans ces commerces-là, mais on peut s'imaginer que les tout a augmenté de prix, hein, les crayons, les coffres à crayons, comme tu le dis.
Donc, tout coûte cher. Et c'est difficile pour les familles à moindre revenu parce que quand on se présente là, puis qu'on a une liste, comment nous, comme parents, pouvons juger ce qu'on peut ne pas acheter dans cette liste-là versus ce qu'on doit acheter? Comment on peut faire cet arbitrage-là entre, je pense que les crayons, les deux paquets de 16 feutres ou qui contiennent du beige, parce qu'ils sont très spécifiques, là, il faut quand même pas ne pas avoir du beige dans son coffre à crayons. comment je peux déterminer que, c'est un caprice? Je peux pas. Je peux juste payer.
Ouais, puis dans certaines écoles, à nouveau, je veux pas généraliser, mais l'espèce de mise à jour du matériel est pas nécessairement toujours bien fait. Et ça vaudrait la peine de se poser la question, est-ce que tout ce qui est dans ma liste est véritablement nécessaire ou des fois c'est un petit peu un caprice, justement, l'exemple du crayon feutre beige, est-ce vraiment nécessaire? Donc oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, j'attire l'attention de nos auditeurs à aller voir une vidéo qui est tout à fait culte sur YouTube. C'est celui de Jean-Luc Mongrain qui pète sa coche, si on permet l'expression, sur, je pense que c'est un enfant en première année. Et la liste est très, très longue. Bon, c'est un petit peu caricatural, c'est un petit peu exagéré, mais c'est quand même très drôle. C'est garanti que nos auditeurs vont vraiment bien rigoler.
J'ai l'impression qu'il y a comme des pics de visionnement dans YouTube avec ce vidéo-là. Tu sais, mois d'août puis de mois de septembre, ça explose. Puis après, on n'entend plus parler. Ben là, je pense que ça va exploser dans les prochaines semaines. J'aimerais aussi t'entendre sur les masques. Là, on nous dit qu'il n'y en aura pas de masques dans les écoles à la rentrée scolaire. Mais peut-on vraiment prévoir l'avenir?
Moi, j'ose une prédiction. Je ne pense pas qu'il y aura de masque à la rentrée scolaire. Mais mon petit doigt
ça, c'est déjà confirmé.
Oui, ça, c'est confirmé. Tu as raison. Et mon petit doigt me dit que quelque part après le 3 octobre, quelques jours après, le masque va revenir tranquillement. Je ne sais pas pourquoi après le 3 octobre, j'ai dit ça comme ça, Yasmine.
Je sais pas qu'est-ce que t'as dans ton agenda le 3 octobre. Moi, j'ai rien, là. J'ai absolument rien planifié. Je comptais rester à la maison, prendre un bon petit café.
Alors, bien sûr, c'est les élections. Et j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que la CAQ, s'il remet le masque, il va avoir une espèce de petite écœurantite aiguë de la part des concitoyens et ça risque de nourrir la base d'un Éric Duhaime, par exemple.
C'est vrai que ça pourrait ramener Éric Duhaime à l'avant-plan s'il y a une obligation de port du masque dans les établissements scolaires. On va voir ce que la santé publique, elle, va recommander pour la 8e vague. On sait qu'on va avoir des points de presse prochainement pour avoir plus d'informations là-dessus. David Santarossa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se parle demain.
À demain.